Salut, bonjour.
Bonsoir.
Bonjour.
Bienvenue sur Comme un ouragan, une émission radio en mixité choisie pour regarder le monde avec des lunettes féministes, un mardi sur deux sur Radio Duo 89.5 et en streaming sur radioduo.org. Alors aujourd'hui, on vous avait promis la dernière fois une chose, on va tenir notre promesse, mais elle va juste être un tout petit peu décalée. Ça veut dire la playlist musicale transféministe qui devait peut-être avoir lieu aujourd'hui aura finalement lieu le 16 février. Donc cette émission, elle sera bien là, ça c'est promis, mais aujourd'hui, on part dans un autre délire. On a deux invités. Bonjour.
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 Et on est là pour une émission qui prévoit de nous amener dans le monde de Donna Haraway, ou plutôt de nous faire voir le monde un peu à la manière de Donna Haraway. Alors, Donna Haraway, toi, Alice, comment t'as connue?
Je pense que comme beaucoup de féministes autour de moi, mon premier contact, ça a été de lire une version de l'article qui s'appelle Le Manifeste Cyborg, qui circulait sous format brochure dans tous les bons infocus féministes. Et c'était il y a longtemps, j'en ai pas un souvenir très fort, mais en tout cas sur le contenu, mais je me souviens m'être dit, ouah, c'est incroyable, ça détonne, il y a une manière de parler et de réfléchir qui sort de ce que je connais déjà. Et je pense que j'ai commencé à vraiment plus m'y intéresser des années plus tard quand elle a sorti un livre qui s'appelait Le Manifeste des espèces compagnes. Moi, je m'intéressais aux animaux, à l'antispécisme, et je trouvais pas mon compte dans l'antispécisme, dans les discours qui circulaient déjà. Et du coup, ce livre de Donna Haraway parlait vraiment de ça et d'une manière où là, je me suis dit, ah ouais, là, il y a quelque chose elle tient un truc, quoi. Là, ça m'intéresse. Et depuis, j'ai pas lâché l'affaire. Voilà.
Bon, tu nous diras un peu plus pourquoi t'as pas lâché l'affaire.
Oui.
Caro, tu veux nous dire ce que t'aimes bien chez Donna Haraway, comment tu l'as rencontrée?
En fait, alors moi, je l'ai rencontrée initialement par Paul B. Preciado, qui, enfin, j'ai lu Donna Haraway par Paul B. Preciado d'abord, quoi, donc à travers sa voix et tout ça. Et en fait, j'ai été vachement décontenancée. C'était dans un séminaire où il s'adressait plutôt à des personnes qui venaient d'un travail sur le corps, danse, mais pratiques somatiques, travail social, etc. Et en fait, ben, dans ce contexte-là, lire le Manifeste Cyborg, ça a été ce texte-là, moi, ça a fait une espèce d'explosion parce que ça vient complètement brouiller le rapport nature-culture, mais aussi vivant-machine, vivant-environnement, homme-femme, sexe, genre, science aussi et sociale, corps-esprit, expérience, connaissance. Enfin, j'en ai une liste privée, publique aussi, individuelle, collectif. Enfin, je dis ça pas à ce moment-là, parce qu'en fait, à ce moment-là, j'ai été vachement décontenancée par cet écrit et par cette oralité. C'est pas facile d'entrer dans l'univers de Donna Haraway, je trouve. Donc à ce moment-là, j'étais pas prête et j'ai juste mis ça un peu de côté. Et après, j'y suis revenue et on va s'en dire plus, mais peut-être j'avais envie de aussi dire pourquoi tu nous as réunis par rapport à Vivre avec le trouble qui nouvellement est traduit là cette année, qui a été traduit d'un texte de Donna Haraway de 2016. Et j'avais envie de lire l'introduction de ce bouquin. Donc ça dit trouble est un mot intéressant. Il vient d'un verbe français du XIIIe siècle qui signifie remuer, obscurcir, déranger. Nous vivons des temps perturbants et confus, des temps troublants et troublés, et quand je dis nous, je veux dire tout le monde sur Terra. Devenir capable d'y répondre ensemble, dans toute notre insolente disparité, telle est la tâche qui nous incombe. Voilà pour une intro.
Haraway, il y a plein de trucs autour d'elle. Moi, je voulais faire un clin d'œil aux copines qui, sur Dégenrés, avaient fait une émission qui s'appelait La Galaxie Haraway, il y a à peu près un an. Et c'était au moment de cette émission, on avait commencé à se rencontrer dans l'idée que peut-être Haraway viendrait au printemps à Lyon. Puis bon, finalement, il s'est passé deux, trois autres trucs. Donc ça ne s'est pas encore passé, mais il y a cette émission qu'on peut retrouver sur Radio Rageuse. Du coup, s'il y en a qui ont envie de poursuivre ou d'aller voir ailleurs comment d'autres ont décrit la galaxie Araoué, il ne faut pas hésiter. Et du coup, on va continuer à dérouler des histoires, mais bon, pour l'instant, on va écouter un petit morceau de musique. Et on voudrait écouter Our Darkness de Anne Clark. Toujours dans Comme un ouragan. Et ce soir, l'idée, c'est de rentrer un peu dans le monde de Donna Haraway ou d'essayer de voir le monde un peu comme Donna Haraway. Et Donna Haraway, c'est une rigolote parce qu'elle essaye de construire des articulations. Et par exemple, il y a sa petite histoire de l'orthodontie qui est un peu amusante. Elle raconte qu'elle arrive comme prof sur son campus à Santa Cruz et qu'elle se rend compte que tout le monde a les dents qui sont passées par l'orthodontiste. Et du coup, dans sa manière de penser les choses, elle commence à se demander mais comment ça se fait que tout le monde a les dents redressées par l'orthodontiste, ou plutôt comment les orthodontistes décident qu'est-ce qu'une bonne mâchoire. Donc elle enquête un peu sur l'histoire, elle discute avec d'autres qui sont pris de passion pour ça, et elle se rend compte que la mâchoire idéale, c'est une mâchoire qui n'a jamais existé, c'est la mâchoire des statues grecques. Et ça, c'est un peu des petites histoires que déroule Donna Haraway de ci, de là. Et une chose qu'on avait envie ce soir un peu de discuter, qui vient de tout son bagage ou son sac, ou je ne sais pas comment dire, c'est la question du point de vue situé. Parce que peut-être ce qui l'a rendu célèbre à un moment, ça a été ça. Et du coup, ça a peut-être un intérêt d'en parler. Alors, C'est quoi le point de vue situé chez Donna Haraway? Cette idée qu'il n'y a pas de... Elle arrive dans les années 80 et c'est un peu la fin des grandes utopies. Donc il y avait des idéaux et on essayait de se battre pour un idéal. Alors on était communiste, on était féministe, on se battait pour un idéal en ayant un peu une idée abstraite de qu'est-ce que serait l'idéal. Et Donna Haraway arrive en 88 avec cette histoire de point de vue situé. Elle dit peut-être, en fait, il faut se situer vraiment. On ne peut pas se mettre dans un idéal abstrait comme ça. Il faut voir d'où on part, d'où on parle, pourquoi on parle comme ça, et qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, comment bricoler, ou comme elle dit ailleurs, comment faire des jeux de ficelle et démêler les pelotes pour vivre dans un monde moins abîmé.
Et... Pour moi aussi, ça s'inscrit dans le fait qu'à la base, elle vient du milieu des sciences. Elle a fait des études de philosophie et de biologie. Et du coup, tout son discours sur les points de vue situés, elle le développe dans un article, dans un livre. Il y a d'autres articles où elle parle plus de son travail sur l'histoire de la science et en particulier comment les biologistes... mais aussi les primatologues, etc., avaient des biais dans leur travail, dans leurs interprétations liées au fait que ce soit surtout des hommes, etc., et que c'est, à mon sens, une des premières à avoir vraiment démonté ça, d'où l'idée de situer, de critiquer, dans le sens de critiquer l'idée que la science est objective.
Oui, et même, en fait, elle parle de ce... Des savoirs situés pour comme renforcer l'objectivité, c'est-à-dire de donner une objectivité plus forte, et elle s'associe à d'autres féministes pour ça, donc une objectivité plus forte, parce que si on se situe et qu'alors on dit de quel point de vue et de quelle construction et de quelle sociabilité, de quelle construction sociale on voit le monde, ou en tout cas à partir de laquelle on a des expériences et depuis laquelle on voit le monde, alors on va pouvoir... avoir une objectivité sur ce monde plus grande, en fait. Donc, ce n'est pas l'objectivité qui ferait que plus on est loin et mieux on voit, mais plutôt, plus je dis d'où je vois, et plus ça dit quelque chose du monde réel. Voilà.
Et aussi, avec cette histoire de point de vue situé, elle insiste sur pourquoi on regarde. Parce que, pour elle, les sciences sont placées... du côté de l'impérialisme, du racisme, du sexisme, du militarisme à outrance, du capitalisme. Et du coup, elle a vraiment un intérêt à défaire cette science qui a été construite pour l'oppression, pour gagner des territoires, bon, selon les disciplines. Et vraiment un mélange disciplinaire et une chose de sortir de la production de la science au service de l'exploitation, mais plutôt construire des savoirs situés qui peuvent nous être concrètement utiles.
Et comment aussi différents savoirs situés autour d'un même objet vont contribuer ensemble à construire une objectivité. Pour moi, il y a aussi cette histoire-là que plusieurs personnes qui ont des points de vue, des situations différentes par rapport à ce dont ils parlent, à plusieurs, ils vont construire une objectivité.
Et ce qui me semble aussi intéressant dans la question du point de vue de Haraway, c'est, comme tu as dit tout à l'heure, qu'elle prend vraiment en compte tout. Ça veut dire, quand elle dit point de vue, elle pense au sens de la vision. Donc le point de vue, il n'est pas le même aussi si on a ou pas des lunettes. Donc elle prend en compte aussi les techniques, comment ça fonctionne. Comme là, tout de suite, on fait cette émission de radio, et même si on avait très très bien préparé, mais que le micro ne fonctionnait pas, ça ne marcherait pas. Le micro, il est aussi important que la préparation. Et Haraway, elle met ça tout sur le même niveau pour réfléchir vraiment quelles sont les conditions de production de savoir et comment comprendre réellement le monde dans lequel on vit et auquel on participe.
Et moi, j'ai envie de préciser un tout petit peu ce que j'ai compris de ce qu'elle entend par savoir situé. Il y a d'autres personnes qui m'ont aidé à comprendre ce que je vais dire là. Hein. Enfin, ce n'est pas venu de moi toute seule, quoi. Mais c'est-à-dire se situer, qu'est-ce que ça veut dire, se situer, enfin, depuis où on parle, donc, c'est-à-dire avec quelle technique de regard on voit, comme tu dis, les lunettes ou le micro pour la radio, mais de quelle construction sociale je parle. Et ce serait peut-être un peu moins décliner toute une série d'identités En tout cas, ça, ce serait un peu comme cette déclinaison d'identité, ce serait le point de départ pour construire une perspective qui vient dire comment on voit le monde autrement. Donc, ce n'est pas seulement partir d'une identité ou de construction sociale, mais c'est faire le chemin jusqu'à dire, et voilà. Et alors, le monde, eh ben, sous ce prisme-là, ou depuis cette situation-là, il est comme ça. Et donc, le partager à plusieurs pour dire, ben voilà, ça, c'est un point de vue, mais il y en a d'autres, et comment est-ce qu'on peut dialoguer de l'un à l'autre, quoi.
On voudrait écouter un petit extrait d'une conférence qui a eu lieu en 2017 et dans laquelle on va entendre parler Emily Ash, qui est une philosophe qui travaille à Paris et qui s'inscrit dans plusieurs prolongements de Donna Haraway et qui là, vous allez entendre de quoi elle nous parle.
Par une grande respiration, ou plutôt une grande inspiration, et par lier un constat en fait, qui me semble partagé par énormément de personnes et de plus en plus de personnes autour de moi, à savoir qu'on a un sentiment d'étouffement, donc on étouffe avec de vieilles idées, avec de vieux concepts, avec une vieille épistémologie, et que c'est d'abord peut-être aussi par rapport à ça qu'on a envie de penser des alternatives, qu'on étouffe sous des vieilles barrières disciplinaires, notamment sciences humaines, qui est ma partie, hein, où on doit analyser, mais surtout pas inventer, où d'un autre côté, la fiction ne doit certainement pas être spéculative, où la politique doit aller avec la politique, la religion avec la religion, qu'on n'a pas le droit de penser ceci, pas le droit d'articuler cela, et qu'à la fois on meurt d'ennui et que peut-être on risque aussi d'en mourir tout court. Je voulais aussi commencer en disant une autre banalité peut-être, qui est que tout le monde sait qu'il y a 1000 alternatives possibles à ce monde dans lequel on est aujourd'hui. Tout le monde le sait, et même ceux qui souhaitent surtout pas que ce monde change. Et ce à quoi je voudrais essayer de m'intéresser un tout petit peu ici, c'est là pour moi que réside peut-être un peu d'espoir, c'est que quelque chose ici est en train de changer, à savoir que dans notre parti, puisque c'est de ça qu'il s'agit aussi, c'était cette interpellation à mon sens aussi qui était là dans ce colloque, de plus en plus de personnes s'autorisent à articuler des choses qui ne sont pas censées être articulables, de plus en plus de personnes s'intéressent à des choses qui ne sont pas censées être dignes d'intérêt, à dire des choses qui ne sont pas censées être dites, ou encore à entreprendre des choses qui ne sont pas censées être faisables, peut-être parce qu'on n'a plus le temps, peut-être aussi parce que ce monde est en ruine et qu'on n'a pas envie d'attendre d'être mort pour que ces alternatives arrivent. Alors on pourrait le dire encore un tout petit peu autrement, on n'y croit plus. J'ai ce sentiment-là très fort et qui est partagé encore une fois par beaucoup de monde autour de moi. On ne croit plus à cet imaginaire des modernes qui nous dit que nous sommes seuls au monde, que les animaux sont stupides, que les plantes sont inertes. Il me semble que tous ces interdits n'ont plus de sens, que toutes ces injonctions nous semblent vieilles, datées, qu'elles sonnent creuses, ou que, en le disant avec un mot qui n'existe pas mais que j'aime beaucoup, leur puissance de terrorisation ne marche plus. C'est la même chose, de façon là, pour commencer, avec ce grand mythe du progrès, hein, qui n'est finalement que l'autre face du disque de la petite chanson d'Il n'y a pas d'alternative, avec, entre lesquels finalement ces deux faces-là, d'un côté le progrès et puis de l'autre côté il n'y a pas d'alternative, nous sommes coincés depuis des décennies, sinon des siècles. À savoir qu'il n'y a surtout pas d'alternative, ou plutôt que toutes les alternatives sont ou bien ramenées à un retour en arrière, ce qui est, comme tout le monde sait, une hérésie dans un temps linéaire, ou bien à de l'exotisme, hein, qui est aussi une autre forme d'exclusion temporelle, comme nous l'a appris Fabien. Et il me semble que cette terrorisation, c'est un mot qui n'existe pas, je le sais, je m'excuse, mais je n'en trouve jamais d'autres, ne marche plus et que ce colloque en est une des multiples preuves ou un des multiples signes. Et la question alors n'est peut-être pas comment on va sortir de cette modernité, mais comment on se bat contre ceux qui ont intérêt à ce que cela continue, même si plus personne n'y croit.
Voilà, c'était donc Emily Ash, c'est un extrait d'une conférence qu'elle a donnée en 2017 et qu'on a voulu passer parce que, à mon sens, Pour moi, les textes d'Haraway sont comme une réponse à ce que, au manque, enfin à la situation compliquée que dont parle Emily H, d'avoir l'impression qu'on a les vieux cadres de pensée qui fonctionnent plus pour penser ce qui nous arrive. Et pour moi, Donna Haraway, elle vient vraiment justement apporter autre chose, quoi. La nouveauté.
Et ouais, d'ailleurs, ouais. Emily H, elle a fait ce recueil de textes, là, écoféministe, qui est vraiment intéressant. Et Donna Haraway, dans sa culture politique, elle vient aussi de là. Donc il y a des croisements qui se font à plusieurs niveaux entre ces gens.
Et par exemple, quand elle dit si je suis religieux, je suis juste religieux. Si je fais de la politique, je fais juste de la politique. Si je fais de l'art, je fais juste de l'art. Si je suis féministe, je suis juste féministe. Moi, en fait, sur cette question-là, en fait, je suis artiste et féministe. Et dans plein de milieux, si j'étais avec des artistes, alors je mettais plutôt de côté toutes mes réflexions, ou disons, c'est pas ce que je mettais au centre et c'est pas ce que je partageais avec les gens. Et il m'a fallu longtemps un peu pour que, dans le milieu féministe, comme je fasse mon coming out, quoi. Et d'essayer de recomposer, pour moi, ce que je trouve qui est un peu difficile, c'est dans des milieux où on me dit « bienvenue », en fait, je dois continuer quelque part à me compartimenter ou à être dans des cadres de pensée où je privilégie une chose et puis pas d'autre. Et en fait, moi, Donna Haraway, elle m'enthousiasme à cet endroit-là, c'est-à-dire d'avoir le courage aussi ou une forme de transparence ou de dénuement, je ne sais pas comment dire, pour juste dire, voilà, moi je suis ça et ça, et en fait, peut-être c'est contradictoire, peut-être c'est pas apprécié depuis tes perspectives ou tes implicites, peut-être on peut quand même trouver des endroits où c'est commun et cultiver une forme de connexion ou de relation, et que ça, en fait, d'essayer de continuer à tisser entre l'un et l'autre. Moi, ce que Donna Haraway, elle me fait dire, c'est ça produit des choses plutôt que retrancher derrière les implicites d'un milieu, par exemple, ou les implicites de juste un milieu. Déjà, s'il y en a deux, ça crée des étirements, des contradictions, des paradoxes. Et à l'intérieur de ça, il y a de la vie, quoi, où il y a un renouvellement et des choses qui sont à creuser, quoi. Voilà. Moi, ça m'apprend ça aussi.
Et du coup, auditeurs, auditrices, si ça vous fait envie de regarder un peu les livres de Haraway, vous verrez qu'elle crée plein de personnages. Elle a commencé à travailler avec Star Wars, elle a adoré Star Wars, donc elle va ramener Star Wars, et puis elle va inventer le personnage du témoin modeste, etc. Elle a toute une manière de raconter des histoires, ce qu'elle appelle faire de la SF. Et SF, pour elle, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire science-fiction, ça c'est ce qu'on connaît. Mais ça veut dire aussi les fabulations spéculatives, le féminisme spéculatif, les faits scientifiques et les jeux de ficelle. Et les jeux de ficelle, c'est toute cette histoire de comment on commence à se raconter une histoire et quels éléments on essaye de relier les uns avec les autres. Et encore un petit clin d'œil à nos camarades ou amis qui font des choses formidables. Il y a une émission qu'on peut écouter les derniers lundis du mois à 11h30 qui s'appelle Vortex et Rotative, dans laquelle des personnes racontent des livres de science-fiction. Du coup, si la science-fiction vous branche, sur Radio Dragon, le dernier lundi du mois à 11h30, ou sur Radio Zinzine le samedi à 17h, et sur ces radios-là en podcast, avec aussi des archives qui restent. On peut écouter là des romans de science-fiction. On se refait une pause musicale. On va écouter Laurie Anderson, Big Science, aussi même époque, les années 80. Thank you.
he said, we'll just take a right where they're gonna build that new shopping mall. Go straight past where they're gonna put in the freeway. And take a left at what's gonna be the new sports center. And keep going till you hit the place where they're thinking of building that drive-in bank. You can't miss it. And I said, this must be the place. Put some mountains here. Otherwise, what are the characters going to fall off of? And what about stairs? Yodelay.
C'était donc le morceau Big Science de Laurie Anderson. Et vous êtes toujours sur Radio Dio dans l'émission Comme un ouragan. Et on est ce soir dans le monde de Donna Haraway. On va continuer sur une explication, on peut le dire, une tentative au moins, de... je disais que dans le monde de Donna Haraway, il y avait des figures comme des personnages inventés et des choses comme ça. Et là, du coup, dans son dernier livre, Vivre avec le trouble, une grosse partie concerne le Shtoulousen. Alors, qu'est-ce que c'est que cette chose étrange ? C'est un mot que Donna Haraway a inventé et qui propose quelque chose en rapport avec ce qu'on appelle l'Anthropocène et le Capitalocène. Donc vous voyez ces grandes périodes géologiques qui s'étendent sur des dizaines de milliers d'années, etc. Donc la dernière, c'était l'Holocène. Et depuis la fin du XXe, le début du XXIe siècle, il y a deux personnes en particulier, un biologiste et un météorologue, qui ont proposé d'appeler la nouvelle période, qu'on déjà dit qu'on est en train de changer de période et qu'on proposait pour nom de cette nouvelle période l'Anthropocène, dans l'idée que du coup, donc pourquoi Anthropocène ? Parce que Anthropos, l'homme,
l'humain,
c'est censé être l'humain, mais bon. aurait un tel impact sur la Terre qu'on le vérifierait au niveau géologique. Et leur démarche, c'était aussi de... je ne sais pas si on peut dire un acte militant, mais si peut-être, enfin, de dire, voilà, là, ce qui se passe, c'est qu'on constate des phénomènes qui sont très, très importants, qui concernent tout le monde, qui mettent notre survie en jeu, qui sont irréversibles, et il faut réagir. Du coup, ils ont proposé ce nom-là pour ça. Et du coup, c'est une période qui commencerait, eux, ils la situent à la fin de la révolution industrielle, quoi.
Si je peux préciser une petite chose, il y a cette histoire, comme on est sur des grandes échelles de l'atmosphère, etc. Genre, l'atmosphère qu'on respire en ce moment, c'était l'atmosphère d'il y a à peu près 40 ou 50 ans. Donc ce qu'on produit actuellement comme atmosphère, c'est pour dans 40-50 ans. Pour voir, c'est des grandes échelles.
Ouais, il faut penser sur le long terme, quoi. Et alors, Haraway utilise ce terme d'anthropocène à des moments, mais elle a quand même des critiques à formuler, et c'est vraiment pas la seule. Entre autres, alors la critique surtout d'Haraway, c'est elle dit Anthropos, ça met trop l'accent sur l'être humain et sur le rôle de l'humain, alors que là, les phénomènes qu'on a à penser, donc le réchauffement climatique, l'acidification des océans, etc., ils concernent pas que les humains, ils concernent aussi les animaux, les plantes, les bactéries, enfin les cailloux, voilà. Du coup, Anthropocène, c'est pas vraiment adapté. Et ça fait comme, une fois encore, ressortir l'humain du reste, ce qui n'est pas forcément l'idée, bien au contraire.
Et même le couper de son environnement et de sa relation avec les autres vivants.
Voilà,
ouais.
C'est exactement l'idée. Et du coup, elle a proposé un autre terme qui est capitalocène. Il se trouve qu'il y avait d'autres gens au même moment qui inventaient le même terme, qui se sont rendus compte très rapidement de ça, ils en ont discuté. Et avec l'idée que capitalocène, du coup, ça met plus l'accent sur le système économique capitaliste, et que du coup, ce gros changement qu'on connaît, il serait peut-être plus lié au capitalisme que juste à la présence de l'homme. Ça permettait comme un peu de préciser et de changer un petit peu de regard. Et voilà. Une autre critique du terme anthropocène dont j'avais vraiment envie de parler, je pense que Donna Haraway la connaît, je ne sais pas à quel point elle la partage et tout, mais bon. Il y a un Malcolm Ferdinand, qui est un philosophe spécialiste de l'écologie décoloniale, qui souligne que dans l'anthropocène, il y a l'idée d'espèce humaine, mais que ça fait un truc un peu universel où ça met tous les humains sur le même plan. Alors qu'en fait, dans ces histoires de réchauffement climatique, etc., bah, tout le monde n'est pas responsable pareil. Et tout le monde n'est pas touché de la même manière. Du coup, Capital Océan, ça permet au contraire de dire bah, c'est peut-être plutôt le monde occidental à travers la colonisation, à travers l'esclavage, à travers le développement de marchés internationaux, de nouvelles routes, du développement du commerce, etc. Ça permet de mettre l'accent sur, c'est pas n'importe qui, c'est pas les humains qui sont responsables, c'est certains humains, et c'est pas la même chose. Voilà, donc Capital Océan, ça permet d'apporter cette idée-là, et ça permet aussi de prendre en compte d'autres phénomènes historiques et autres dans ce processus-là, comme la colonisation, l'esclavage, le système des plantations, tout ça. Voilà, donc ça permet vraiment d'y réfléchir autrement. Après, elle dit, Donna Haraway dit, bon, le Capital Océan, donc c'est intéressant, mais ça, visiblement, ça ne lui suffisait pas. Et elle disait, là, on a quand même un gros problème à affronter, donc il nous faut des mots costauds et il nous en faut peut-être plusieurs. Et elle a proposé Cthulhu Océan. Alors, Cthulhu, je ne sais pas si ça vous évoque quelque chose. En premier lieu, je pense que la figure de Cthulhu qui est la plus connue, c'est celle du personnage de l'écrivain de science-fiction Lovecraft. Donna Haraway ne s'inscrit pas du tout là-dedans. Elle dit clairement que c'était un monstre qui était misogyne et raciste. Elle ne reprend pas cet héritage-là. Elle dit qu'elle reprend ce nom à une petite araignée qui se trouve, qu'on peut trouver en Californie, pas très très loin de chez elle, et qui s'appelle Pimoa Cthulhu. Il y a une petite différence de nuance dans l'orthographe. Bon, je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails, mais... Bon, je vous lis ce qu'elle dit de cette araignée. Pimoa Cthulhu, on la trouve sous les souches, dans les forêts de Sequoia, des comtés de Sonoma et de Mendocino, non loin de chez moi, au nord de la Californie. Personne ne vit partout. Tout le monde vit quelque part. Rien n'est lié à tout, mais tout est lié à quelque chose. Cette araignée est à sa place, elle a sa place. Elle tire pourtant son nom d'intrigants voyages ailleurs. Son nom générique, Pimoa, vient de la langue des Gossiutes de l'Utah. Quant à son nom spécifique, Cthulhu, il renvoie aux habitants des profondeurs, à ces entités abyssales et fondamentales que l'on dit chthoniennes. Donc voilà, elle le rapproche aussi au niveau de l'orthographe de ce mot chthonien, donc, qui est un vieux mot grec, il me semble, qui fait référence au monde souterrain, à tout... sorte de figures qui habitent ces mondes souterrains, qui sont plutôt des bestioles et des choses comme ça. Et donc voilà pour Cthulhu Océan. Et qu'est-ce que c'est ? C'est comme un outil, c'est comme une... Elle dit c'est une manière de raconter les histoires. Donc quelles histoires on raconte sur ce qui nous arrive ? Et on peut raconter des histoires Cthulhu Océan. Qui sont des histoires où ça grouille, des histoires où il y a plein de bestioles qui rentrent en jeu. Voilà, je vais laisser Jo continuer à expliquer.
Non, c'est bien ce truc de grouiller, parce qu'elle répète même plusieurs fois, par le passé, dans les années 80, au moment du manifeste cyborg, j'ai pensé qu'on allait être post-humain. Et déjà, post-humain, chez Donna Haraway, c'était pas devenir super puissant, hyper efficace, une tête en face de smartphone. C'était prendre nos responsabilités comme humains par rapport aux techniques, par rapport aux animaux, par rapport à l'environnement. Mais là, maintenant, elle a vraiment laissé de côté post-humain. Et ce qui l'intéresse, c'est de devenir de l'humus, c'est-à-dire de composter sans faire trop de dégâts, si possible. Et les histoires qu'elle raconte, c'est toujours autour de comment composter, quelles alliances improbables. Et aussi, elle est à la fois dans les deux trucs. D'un côté, de ne pas se laisser désespérer par l'ampleur des désastres. Ça veut dire si on commence à penser à l'échelle anthropocène, et encore pire si on pense capitalocène, si on regarde Elon Musk, la possibilité de ne pas voir les étoiles un jour dans la vie, etc., ça risque de nous désespérer. Mais l'idée, c'est vraiment essayer d'articuler des récits et pour résister à ce monde-là qui nous est imposé et qui est un monde qui tend à devenir invivable. Donc comment réparer le monde, déjà en racontant des histoires vivables et des histoires dans lesquelles on est responsable, c'est-à-dire pas seulement où on se place du côté de ce qui serait bien à faire, mais qu'est-ce qu'on peut faire maintenant, ici, où on se trouve et avec les forces et les liens qu'on a. Et dans ce livre-là, Vivre avec le trouble, donc c'est ça, vivre avec le trouble, c'est ne pas faire semblant qu'en France, il n'y a pas une quarantaine de centrales nucléaires qui sont en train de périmer, par exemple. C'est pas la peine de faire semblant, il faut vivre avec. Mais du coup, vivre avec, c'est pas ne jamais sortir de chez soi parce que l'explosion va arriver. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Comment raconter des histoires? Et comment se donner la force de faire autre chose que d'avoir peur de ces explosions-là, par exemple? Et je sais pas, le livre, ça c'était mon exemple. Donna Raouel connaît pas la situation du... Enfin, je sais pas si elle connaît la situation du nucléaire en France. C'était mon exemple. Mais dans le livre, elle va raconter, je sais pas, par exemple, le projet de Margaret Wertheim et sa sœur. J'ai oublié comment elle s'appelle, la sœur Margaret Wertheim. Vous vous rappelez? Christine, je crois. Christine et Margaret Wertheim. Y en a une, c'est une artiste, et l'autre, c'est une mathématicienne. Et ensemble, elles ont grandi en Australie, je crois. Elles vivent maintenant aux États-Unis. Et elles se sentent touchées par les coraux qui sont en train de perdre toutes leurs couleurs et qui meurent dans les océans à cause de l'acidification des mers. Et elles se lancent dans un projet comme collaboratif d'une manière qui est de crocheter des coraux de toutes les couleurs pour remplir, bon, elles sont des artistes, donc remplir des galeries d'art comme ça, pour au moins garder l'image de qu'est-ce que c'était les coraux de couleurs dans la représentation artistique, puisque dans le milieu, comme dit, naturel, ben, ils n'existent plus. Du coup, de créer comme une autre naturalité de ces coraux, d'une certaine manière. Et c'est aussi intéressant... c'est toujours des projets... C'est Choulousaine, du coup, ça croise aussi les mathématiques. Parce que bon, bah, même les mathématiques, il n'y a pas qu'une vérité. En fait, là aussi, il y a des régimes épistémologiques, des cadres de pensée qui sont assis par des régimes de pouvoir, quoi. Et dans les mathématiques, il y a eu une... comment dire, est-ce que je vais me sortir de parler de ça? Il y a eu une pensée euclidienne, une pensée des surfaces plates, des lignes droites. Et a été mis de côté les mathématiques hyperboliques, c'est-à-dire les mathématiques dans lesquelles il y a des plis. Les plis, c'est trop de surface. Et les mathématiques ont pendant longtemps pas réussi à penser les plis. Et pas réussi non plus à représenter les plis. Les mathématiques hyperboliques étaient comme irréprésentables. Et le crochet, c'est une manière de représenter des mathématiques hyperboliques, de faire des surfaces qui débordent. Et donc, c'est intéressant pour ça. Et Margaret Wertheim, elle insiste là-dessus parce que les scientifiques, pendant des siècles, les mathématiciens ont essayé de représenter en se cassant la tête, comment faire. Et en fait, ils ne se sont jamais aperçus que le crochet pouvait faire ça parce que dans leur division du travail, évidemment, ils n'allaient pas crocheter, ils étaient quand même mathématiciens. Et puis, comme ils étaient mathématiciens, bah, ils n'ont pas regardé non plus leur feuille de salade, qui est une très bonne représentation de mathématiques hyperboliques.
Et ouais, c'est assez... Enfin, merci quoi, de révéler ça, quoi. Et moi, ça me fait penser dans ma propre expérience, enfin, ce que je vois aussi de Donna Haraway et dans le Choulousaine, j'ai l'impression que c'est aussi très présent, c'est la question de la non-innocence. Donc, et moi, ce que je peux voir, enfin, ce en quoi ça me fait écho dans ma propre expérience, c'est par rapport à la question des violences, par exemple. Ce que je peux voir, c'est que les violences, en fait, ça isole. Par exemple, la question de la honte ou de l'isolement ou des violences auto-infligées, c'est des choses qui isolent. Et en fait, pour moi, Donna Haraway, elle est enthousiasmante parce qu'elle est en train de dire « on va pas faire la grande révolution ». En tout cas, c'est pas le projet ou c'est pas comme ça que ça va procéder, mais plutôt on va essayer de faire tenir ensemble ou de tisser du lien, continuer à tisser du lien entre des catégories, des choses, des régimes qui sont apparemment très différents ou a priori éloignés. Et on ne va pas garder la séparation ou la rupture, mais on va chercher à créer du lien. Et dans les mondes dans lesquels on est actuellement, c'est ultra nécessaire pour survivre, quoi. Et en tout cas, moi, ce que je vois, c'est que ben, ça me met au travail de pouvoir créer du lien entre des choses fortes, éloignées et différentes, quoi.
On écoute un petit morceau de musique ?
Oui.
Opening, tiré de la BO de Broken Back Mountain.
First of all, is a quotation of me. So we can get rid of this rather quickly, although of course it's a quotation of me in French, which I like, because I of course wrote it in English and Isabelle translated it into French, and now I read it in French in order to speak about it in English, which is exactly a cat cradle game in and of itself. Nous avons besoin de nouveaux types de récits.
Bon, on n'a pas pu résister au plaisir de vous faire écouter la voix de Donna Haraway. C'est un extrait qu'on a pris dans un film qu'on peut trouver pas trop difficilement, qui s'appelle Storytelling for Earthly Survival, raconter des histoires pour la survie sur Terre. Et c'est un petit film que quelqu'un a fait pour nous présenter Haraway. Enfin, elle parle dedans, elle raconte des bouts d'histoire. Elle est rigolote et sympathique, donc... voilà, on voulait vous faire écouter sa voix pour dire il faut think we must, et surtout nous avons besoin de nouveaux récits.
Think we must. Think we must. If ever there has been a time for the need seriously to think, it is now. And it has got to be the kind of thinking that Hannah Arendt accused Eichmann of being incapable of. The Eichmann, the banality of evil in the figure of Eichmann, was condensed in Hannah Arendt's analysis into the incapacity to think the world that is actually being lived, the inability to confront the consequences of the worlding that one is in fact engaged in, and the limiting of thinking to functionality, the limiting of thinking to business as usual, being smart perhaps, being efficient perhaps, but that Eichmann was incapable of thinking. And in that consisted the banality and ordinariness of evil. And I think among us, the question of whether we are Eichmanns is a very serious one.
Eh bien, c'était encore Donna Haraway qui parlait. Elle nous parlait rapidement de Eichmann. Eichmann, dignitaire nazi allemand, qui a été arrêté par les services secrets israéliens, jugé en Israël en 1961 et condamné à mort. Et c'est un projet documenté par Hannah Arendt. Et Haraway, elle nous reparle de lui parce que Eichmann, pendant toute sa défense, il a dit... Donc, il travaillait à faire circuler les trains. Du coup, il a comme matériellement organisé qu'arrivent à l'heure les trains qui ont déporté des millions de personnes, juifs, tziganes et autres résistants politiques pendant la Deuxième Guerre mondiale en Allemagne et en Europe centrale. Et à son procès en 61, Eichmann, il dit « Mais j'ai fait qu'obéir aux ordres ». Et du coup, c'est pas qu'il essaye de se déresponsabiliser, c'est qu'il a réussi à faire toute sa carrière sans se responsabiliser. Et Hannah Arendt, elle en parle déjà comme ça, et c'est aussi pour ça que Haraway, elle refait référence à lui,
pour dire ne devenons pas des Eichmann. Ça veut dire il faut se sentir responsable de ce qu'on fait, parce que ce que l'on fait, ça a des conséquences après. Think we must, elle l'a repris de Virginia Woolf, penser nous devons.
Oui, elle en reparle aussi du coup dans son dernier livre dont on parlait là, qui s'appelle Vivre avec le trouble, où elle dit un être humain incapable de donner une quelconque présence à ce qui est absent, à ce qui n'est pas lui. Je me suis embrouillée, mais c'est comme ça qu'elle parle d'Eichmann et de la banalité du mal. Voilà, du coup, elle y oppose le « think we must », il faut penser.
Et qu'est-ce que ça veut dire être responsable ? En fait, moi, ce que j'entends ou ce qu'elle dit derrière ce mot-là, c'est être capable, responsibility, être capable de réponse. Donc, comment elle demande à lui, Eichmann, de donner une réponse par rapport à ses actes, quoi.
Oui, je vois. Je sais pas.
Alors, le temps passe. Donc, nous, on avait comme projet un peu ambitieux, parce que sinon, on resterait avec vous encore une petite heure, mais on va essayer de finalement un peu synthétiser l'affaire. Parce qu'on avait comme projet de vous raconter un peu chacune comment on peut articuler ou défaire des pelotes ou comment on est. Responsible, comme tu le disais, ça veut dire quelle réponse on donne. Mmh. Donc je sais pas, est-ce qu'on on fait ça un petit peu ?
Ouais. en tout cas, quand on a entendu la Donna Haraway, elle dit nous avons besoin d'autres types de récits. Donc ça veut dire comment est-ce que on raconte des histoires qui nous rendent mutuellement plus capables, quoi. Ok, et du coup, moi, j'ai tenté ça, un petit peu. Et j'espère que ça ne va pas prendre trop de temps et que...
Non, on prend ton temps, c'est important.
Ok. Donc, moi, je vais... En fait, je vais faire d'abord un trigger warning, parce que là, je vais parler de corps morts, entre autres. Et donc, ça peut faire des émotions qui ne sont pas faciles. Donc, avant de me lancer, je préfère prévenir. Voilà. Parce que je vais tenter de bricoler un passé commun entre l'art et la science, et particulièrement un passé commun entre l'art et l'anatomie, et voir comment on hérite aujourd'hui de ce passé. Donc en fait, l'anatomie, elle explose à la Renaissance avec une pratique qui consiste à aller voir dedans le corps, donc toute cette question de la vision, en ouvrant et en découpant un corps qui est mort, et donc ça c'est la dissection. Et la découpe... Elle fait l'objet de 4 leçons qui sont organisées selon un rituel assez précis. D'abord, on commence par le ventre inférieur, puis le ventre moyen, le ventre supérieur et les extrémités. Et c'est 4 jours de leçons. Et d'abord, c'est entre étudiants en médecine. Et puis, en fait, ces leçons, elles vont devenir peu à peu publiques. Et il va y avoir carrément des édifices, en fait, pour permettre que ça devienne public. Ça, c'est environ au XVe siècle. Donc par exemple, moi j'avais envie de parler du théâtre, un théâtre anatomique, c'est le théâtre de Padoue en Italie, et j'avais envie de le décrire un petit peu. Donc il a une forme qui est ovale, la table qui va accueillir le cadavre, elle est centrale, et autour de cette table s'organisent des bancs concentriques qui, plus ils s'éloignent, plus ils s'élèvent. Et donc, ça crée à peu près des gradins tout autour de la scène. Donc, cette architecture, c'est une métaphore assez explicite de l'œil, tant dans sa forme que dans sa physiologie, parce qu'en fait, par rapport à la profondeur de champ. Et étymologiquement, théâtre, de théatron, ça signifie le lieu d'où l'on voit. Donc, en fait, préalablement, on avait accès à la connaissance par les livres, et maintenant... Avec ces nouveaux théâtres, on a accès à la connaissance en devenant spectateur, donc en utilisant nos sens, particulièrement la vision, pour avoir accès à la connaissance. Et on peut avoir accès aussi un peu au toucher. Le dissecteur, il a accès au toucher, et il fait passer des bouts de chair aussi dans les gradins, quoi, pour que les personnes elles puissent avoir accès aussi en touchant la chair de ce cadavre, quoi. Et donc pour moi, je parle de ça parce que ces théâtres anatomiques, pour moi, ils créent des rapports. C'est-à-dire que l'architecture, elle organise en effet la perception, mais elle organise aussi l'espace et les gens dedans. Donc c'est-à-dire que ceux qui savent, qui ont un discours de vérité et qui performent ce discours, ils sont dans la lumière, ils parlent, ils sont centraux, et c'est les dissecteurs avec leur objet d'étude, le corps mort. Et ceux et celles qui sont témoins, ils sont dans l'ombre, ils sont silencieux, silencieuses, ils sont en périphérie, et ils assistent à la construction du savoir. Et donc d'un côté, on a un corps qui est mort, inconnu, déshumanisé, nu, ouvert au centre. Et de l'autre côté, on a des êtres humains vivants, habillés, connus, convoqués parce qu'ils sont invités en périphérie. Donc en fait, cette architecture, elle crée et elle reproduit des rapports binaires, quoi.
Merci.
D'accord.
Ah,
okay.
Pardon.
Bon. Ok. Donc, ce qui fait spectacle, pour moi, dans cette architecture-là, excusez-moi, hein, mais voilà, c'est les effets du direct. Donc, ce que je pose, c'est que l'architecture, en fait, elle crée la binarité. Et à l'intérieur de ça, la construction de la connaissance, c'est l'activité même de la dissection. C'est-à-dire qu'il s'agissait de démontrer le savoir plus qu'une exploration quelconque. Et donc, moi, ma question que je pose là, c'est comment nous, aujourd'hui, en tant qu'artistes, qui allons dans l'espace du théâtre et l'investissons, on peut continuer à y aller en ayant accès à cette histoire, c'est-à-dire en n'étant pas innocente de cette histoire-là. Parce que si l'architecture, elle crée la binarité, comment nous, on peut continuer à y aller en essayant de la déjouer? Donc voilà, c'est une question. Et par exemple, moi, ce que je vois, c'est qu'investir une position de non-savoir au plateau, c'est-à-dire une posture où on ne cherche pas à montrer une vérité, où on ne cherche pas à montrer qu'on sait, mais plutôt à rendre visibles des points de vue, à donner à voir des expériences, des connexions partielles, des manières de vivre dans les ruines et de comment on s'y prend pour ça, et de quelle solidarité on développe aussi pour ça. Eh bien, ça, c'est aussi peut-être une manière de nous rendre un petit peu plus intelligents les unes les autres en se montrant les manières de faire et pas de dire une vérité, quoi. Et puis aussi d'amener ce qui ne faisait pas à l'époque, c'est-à-dire l'exploration. Donc, donner à voir les coulisses, donner à voir les processus. Si les spectateurs, les spectatrices ont accès à la fabrication de la pièce, alors ils sont plus autonomes pour comprendre la manière de faire de la représentation et de voir le monde que ça donne à voir, quoi, que ça représente.
Voilà, le temps est passé très vite, mais on va déborder un petit peu, c'est pas très grave. On voulait revenir sur... j'ai dit tout à l'heure que j'allais reparler des animaux. Et du coup, je voulais parler en particulier de l'exceptionnalisme humain. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une des raisons pour lesquelles Donna Haraway pense que le concept d'anthropocène n'est pas suffisant. Donc qu'est-ce que c'est que l'exceptionnalisme humain? C'est l'idée que je pense qu'elle est familière à tout le monde parce qu'on baigne dedans que l'espèce humaine serait supérieure aux autres espèces animales et aussi aux plantes, aux cailloux, voilà, à tout ce qui nous entoure. Et du coup, au virus, voilà, très bon exemple. Voilà. Et Donna Haraway dit l'exceptionnalisme humain a fait son temps, on ne peut plus penser l'histoire des individus, on ne peut plus penser l'histoire de l'humain juste à partir de l'humain, et parce que nos histoires, elles sont multispécifiques, et elle veut raconter des histoires multispécifiques, donc c'est-à-dire des histoires qui mettent en scène des humains et des animaux, des humains, des animaux et des animaux, enfin voilà, et parce qu'elle a aussi beaucoup travaillé sur tout ce qui est symbiose, dans son livre fourmille d'exemples d'animaux qui fonctionnent en symbiose ou d'animaux qui fonctionnent en symbiose avec des bactéries, avec des plantes, etc. Et que c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Enfin, l'idée pour moi, c'est que c'est comme ça qu'il faut réfléchir le monde aujourd'hui, qu'on ne peut plus juste penser qu'à partir de l'humain. Voilà.
C'était un petit aperçu du coup du monde de Haraway. Et on va mettre cette émission sur les podcasts de Radio Duo. Il faut bien fouiller sur le site, mais on finit toujours par trouver. Et comme nos autres émissions précédentes, qu'on trouve aussi en podcast sur Radio Duo pour l'instant. Et on mettra aussi quelques ressources qui nous ont inspirées pour construire ça et vous raconter un petit peu les histoires de ce soir. Merci beaucoup de votre écoute. Bonne soirée.
Bonne soirée, merci.
Bonne soirée.